L'espérance, c'est pas toujours facile. Mais avec la grâce de Dieu, tout est toujours possible. Il ne manque jamais, jamais, jamais d'accorder son aide à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, en fonction, évidemment, des forces respectives de chacun. La foi, l'espérance, va avec la foi et la charité dans les vertus. Le symbole cite toujours la foi, l'espérance et la charité. Parce que le sujet de chacune de ces trois vertus est intimement lié. Et on ne peut d'aucune manière les séparer. Si on les distingue en tant que vertus, la foi et l'espérance et la charité, c'est parce qu'elles procèdent de mouvements intérieurs différents. Mais elles sont, en fait, trois volets, si je peux dire, trois aspects complémentaires d'un même mystère. C'est celui de notre communion personnelle avec Dieu en Christ. La foi nous fait découvrir Dieu, l'espérance nous le fait désirer, nous fait tendre vers lui, Dieu, de toutes nos forces, et même au-delà de nos forces. Puis, l'espérance, elle nous permet de l'atteindre véritablement. Et enfin, l'amour, la charité, en est la conséquence qui nous fait participer en partie à l'être de Dieu par sa grâce et nous incite à le communiquer autour de soi. D'autant que lorsqu'on parle de l'acquisition, vous avez l'habitude de l'entendre dire, quand on parle de l'acquisition ou de l'entrée ou de l'espérance du royaume des cieux ou tout simplement du ciel, il convient de toujours comprendre évidemment que ce n'est pas un lieu, que ce n'est pas là où se promènent les Spoutnik et autres stations spatiales, mais c'est évidemment la communion avec Dieu, la participation à l'être même, à la vie même de Dieu, celle qu'il nous a promise par Jésus-Christ, ou en Jésus-Christ, par la force du Saint-Esprit. L'espérance est un mouvement intérieur qui jaillit du plus profond de notre être et qui procède de notre bon vouloir, de notre libre vouloir, et nous fait mettre toute notre confiance et toute notre énergie dans l'attente des promesses divines de l'acquisition du, précisément, royaume des cieux. Au contraire de prendre appui sur soi-même et sur ses propres forces, sur ses propres résolutions, ou sur ses analyses, cette vertu nous fait prendre appui sur les promesses du Christ, qui accomplit et parfait celles de l'Ancien Testament, comme nous allons le voir tout à l'heure, et nous fait confier au secours de l'Esprit Saint, qui agit en nous très, très, très concrètement. C'est pour cela qu'à la suite de saint Paul, on dit que l'espérance est une ancre, comme une ancre de navire, n'est-ce pas ? Car elle nous fait attacher au sol le plus profond, et les vagues de la mer agitées de notre vie ne peuvent nous en détacher et nous empêchent de dériver. L'espérance nous hausse jusqu'à Dieu véritablement. Elle nous fait dépasser notre condition humaine ordinaire et déchue en unifiant, parfois douloureusement, mais toujours et toujours à travers la croix, notre monde déchu avec le monde céleste, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, dont le péché nous avait et nous a éloignés. L'espérance, c'est une réponse libre et volontaire à la foi que Dieu nous a donnée. Elle est une élévation, une résolution ferme et délibérée de tendre vers la vie éternelle sans détourner pour autant, évidemment, le chrétien de ses activités ou obligations terrestres. Elle les lui fait dépasser, au contraire, en les lui faisant dépasser, au contraire, il ne les considère pas comme un bénéfice personnel, mais il poursuit, sans retour égoïste sur soi-même, un idéal de communion avec Dieu et avec les autres. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sous-entendu dans l'évangile de Saint Matthieu, le royaume du Père, et sa justice, c'est-à-dire non pas la justice du royaume, mais la justice du Père. Et tout, parce que là, il y a une question en grec, il y a une question de masculin et féminin. La justice s'accorde avec le Père et non pas avec le royaume, ce qui est différent. Et tout cela et tout le reste, c'est-à-dire tout ce dont on a besoin et que Saint Matthieu avait, ou le Christ évidemment par la bouche de Saint Matthieu avait développé avant, tout cela vous sera surajouté, vous sera donné de surcroît, comme on le traduit d'une manière habituelle. Il n'y a pas pour l'homme de bien supérieur à Dieu. Dieu doit à ses yeux passer avant tout. Jésus nous l'affirme. Qui aime père ou mère au-dessus de moi n'est pas digne de moi. Qui aime fils ou fille au-dessus de moi n'est pas digne de moi. Entendons-nous bien, l'amour n'est pas un amour affectif. Il est normal d'aimer affectivement son mari, sa femme, ses enfants, etc. avant tout. Mais l'amour dont il est question pour Dieu et pour les autres n'est pas de cet ordre-là. Donc il n'y a pas d'opposition, évidemment. Il y a une hiérarchie dans l'attachement de l'homme dans laquelle Dieu doit avoir la première place puisque c'est lui qui nous a créés et finalement c'est à lui que tous nous allons retourner. Il convient en commençant de définir, je crois, un petit peu ce qu'est l'objet de l'espérance spécifiquement chrétienne. Je vous dis que on va s'attacher à définir quel est l'objet de l'espérance. Mais je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Quand s'y méprennent pas la vie de l'Église, les promesses du Christ, les sacrements, la prière et tout ce qui fait la vie de l'Église ne sont pas, vous le savez, de la magie ni de la superstition. Bien sûr, il ne viendrait à l'esprit d'aucun d'entre vous, je le sais, de prendre l'Église pour de la magie ou du fétichisme. Pourtant, dans la pratique de nos vies, il nous arrive souvent de prendre Dieu comme un outil pratique. Plutôt qu'un but, on le prend comme un outil. Ce qui n'est plus lui donner la première place qui lui revient. Jésus, dans son évangile, ne nous a jamais dit qu'il était venu sur terre pour nous rendre plus heureux sur celle-ci. Il n'a jamais dit qu'il allait adoucir notre sort. Il n'a jamais dit qu'il venait nous guérir de tous nos maux. L'Église, la prière, les sacrements ne sont pas des moyens pour vivre mieux ou d'échapper aux difficultés. Pourtant, même dans l'Église, on trouve cette tentation-là. Non, véritablement, Dieu n'est pas un outil dont on se sert pour bénéficier d'une vie plus facile. Ce n'est donc pas cela qu'il faut rechercher. Ce n'est pas dans une amélioration de notre condition humaine terrestre que nous devons mettre notre espérance. Nous devons même remarquer que Jésus nous a précisément prédit le contraire. « Ne pensez pas, dit-il, que je vienne jeter la paix sur la terre, je ne viens pas jeter la paix, mais l'épée, car je viens disjoindre, » c'est pas son but, mais par l'effet de sa venue, « il vient disjoindre l'homme contre son père, fille contre sa mère, épouse contre sa belle-mère, » ça c'est classique, « qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la fera vivre. » Qui ne prend pas sa croix et ne vient pas derrière moi, n'est pas digne de moi. Vouloir confiner notre espérance au niveau de l'amélioration de nos conditions de vie conduit ou conduirait à de graves déconvenues, à de tragiques illusions et à de bien des déceptions. La prière, même si elle n'exclut pas le souci des autres, ce qui est le propre de la charité, n'a pas pour but essentiel d'obtenir de Dieu des bienfaits utiles à notre vie terrestre, futiles à notre prochain. On ne prie pas pour obtenir des bons résultats à un examen, pour obtenir la bonne santé de notre belle-mère, ou pour un tirage au sort favorable lors d'une cagnotte dont le produit nous permettrait de réaliser un projet aussi noble soit-il. Notez tout de même qu'il est légitime de confier ces choses-là à Dieu, mais de le lui confier, c'est-à-dire de s'en remettre à lui pour l'obtention ou non. avec une totale confiance et une franche action de grâce, quelle que soit l'issue, même si nous la considérons négative dans un premier temps. Une prière authentiquement chrétienne consiste à confier nos besoins à Dieu, mais en nous occupant, nous, de le chercher lui, et non les bienfaits que nous lui demandons, en tout cas tels que nous les imaginons, c'est évident. Oui, nous rencontrons tous cette tentation dans notre vie ecclésiale, mais en y succombant que beaucoup de personnes perdent la foi. Si Dieu était bon, entendons-nous dire, quelquefois avons-nous tendance de penser, si Dieu existait, il serait bon. Il ne pourrait donc pas permettre ceci ou cela, chose que l'on considère comme des injustices. Comment Dieu pourrait-il permettre que ma mère meure, que mes enfants soient malades et je ne sais quoi d'autre? Si, je sais bien, mais je ne peux pas tout décrire. Ces raisonnements-là conduisent à la rébellion, au découragement, au reniement et finalement à l'abandon de la foi. Dans les évangiles, on lit presque chaque dimanche des récits des miracles opérés par Jésus. Des guérisons, des multiplications de nourriture, des délivrances démoniaques, des résurrections. Et on est tenté de croire que Jésus serait venu exercer un pouvoir de guérison pour améliorer le sort des Juifs qui l'entouraient. Mais une première constatation s'impose. Même s'il a fait plus de miracles que n'en sont rapportés dans l'Évangile, il est certain qu'il n'a tout de même pas guéri, délivré et ressuscité tout le monde, même de son temps, physiquement sur terre. Les apôtres qui ont continué son œuvre non plus n'ont pas guéri et délivré tout le monde. Et s'il est indéniable que beaucoup de miracles arrivent encore aujourd'hui, et vous en êtes souvent les témoins, et que beaucoup de personnes en sont témoins en dehors de vous ou bénéficiaires, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'est pas encore guéri, que la paix n'est pas encore complètement répandue sur la terre, que la justice n'est tout de même pas universelle et que les hommes ne sont pas encore totalement heureux, c'est une litote. Alors, il n'y aurait donc pas d'espérance? Ou alors, est-ce que Jésus nous aurait trompés? Il faut dire que les apôtres ont expérimenté eux-mêmes cette tentation à laquelle nous sommes confrontés. Ils attendaient un Messie, n'est-ce pas, qui vienne rétablir une royauté prospère et paisible en Israël qui, à ce moment-là, était occupée sous occupation romaine. Jésus a eu beaucoup de mal à leur faire admettre que son royaume était un autre royaume, non terrestre, non politique, non social. Par exemple, alors qu'il voulait aller à Jérusalem, où il savait qu'il serait arrêté, et qu'il annonçait sa passion à ses disciples, Pierre voulait l'en empêcher, et s'est attiré cette exclamation sévère de son maître, et le nôtre, « Va-t'en derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute, tes idées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et devant Pilate, il affirmera, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Dans un audacieux mais splendide essai sur Judas, que les textes liturgiques nous montre seul habituellement comme un traître par cupidité personnelle, le père Serge Bulgakov émet l'hypothèse très éclairante que le motif de la tradition de Judas pourrait être un excès de zèle de celui-ci envers le maître, son maître, qu'il aimait. Il aurait pu vouloir que celui-ci accomplisse la mission que l'apôtre, Judas, croyait qu'il lui revenait, comme les 11 autres d'ailleurs, à savoir le salut du peuple Israël dont Jésus aurait dû être le souverain, mais souverain d'une manière toute humaine, comme un nouveau David ou un nouveau Salomon. Peut-être croyait-il que l'occasion en était donnée lorsque Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, acclamé comme roi par les fils d'Israël, les descendants de Jacob. Mais Jésus n'a pas accepté ce rôle. Le lendemain même, il était abandonné, trahi, condamné et exécuté, comme vous le savez. Peut-être, selon cette hypothèse, Judas aurait-il donné sa vie pour cela. La thèse est intéressante, mais évidemment, mon propos n'est pas de l'étudier, de la défendre ou de la condamner, de l'analyser. Je veux simplement montrer que la tentation d'un messianisme humain rentre, hélas, dans la logique de nos visions étroites du bonheur et du durellement de la vie humaine telle que nous l'imaginons et que nous la voudrions. Mais ceci n'est pas conforme au plan et aux idées de Dieu qui vise un autre bonheur, non éphémère celui-là, mais éternel pour les hommes, ses bien-aimés. Mais alors, si c'est cela, que signifient les miracles que Jésus opérait si ce n'était pas pour guérir tout le monde? Comme je l'ai fait remarquer, son but n'est effectivement pas de guérir tout le monde, de lutter contre la faim et la maladie, sinon avouer que son évangile aurait été un échec retentissant, ce que beaucoup croient d'ailleurs encore, qui attendent toujours un messianisme social et humain. Les miracles avaient valeur de signe. Certes, il se révélait vraiment le Créateur en dépassant les lois physiques de la nature. Les miracles étaient véritablement des choses étonnantes, merveilleuses, extraordinaires, prodigieuses, mais ils étaient subordonnés à une signification, à un sens, à la révélation d'une autre réalité que ces miracles sont censés manifester. L'étonnement que les témoins ressentaient à la vue de ces merveilles devait les amener à rentrer en eux-mêmes, et dépassant le phénomène même du miracle, ils devaient découvrir ce que ces miracles annonçaient. C'est déjà dans l'Ancien Testament ce qu'avait fait Moïse sur le mont Sinaï. Il a vu une chose étonnante qui a attiré son attention et il va voir ce que c'est. Devant le prodige d'un buisson épineux qui brûle sans se consumer, il découvre la réalité de deux natures, le bois et le feu, qui sont unis sans que l'une ne détruise l'autre. Et par là, il a la révélation à travers la parole de l'ange, que c'est ce qui est manifesté, c'est la rencontre de la divinité et de l'humanité qui sera pleinement révélée au moment de l'incarnation du Verbe de Dieu par la naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem, ce dont vous avez été témoin. Seul, bien sûr, seul l'Esprit Saint peut illuminer l'esprit de l'homme pour qu'il comprenne la réalité à travers le signe. Mais justement, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que bien souvent, les apôtres eux-mêmes, au moment où le Christ accomplissait ses miracles, n'en comprenaient pas le sens. Ce ne sera que plus tard, lorsqu'ils auront reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, qu'ils en auront l'intelligence, la compréhension intime de ce que voulait leur montrer ou leur enseigner ou leur révéler Jésus. Je vous donne brièvement deux exemples. Lorsque Jésus nourrit toute une foule en multipliant des pains à profusion, certes, il donne bien à manger à des personnes qui ont faim, ou d'après les apôtres, qui vont avoir faim, parce qu'ils n'ont même pas encore faim. Mais c'est surtout qu'à travers cela, il veut montrer que ces gens qui le suivent sont affamés d'une autre nourriture, pas simplement de pain puis de quelques poissons, mais d'une nourriture spirituelle, celle-là, lui connaît leurs besoins réels. Et il comblera cette faim par un autre pain, un pain d'une autre nature que du pain fait avec de la farine et du levain, des pains qui distribuera aussi avec profusion, comme la manne qu'il faisait jadis tomber dans le camp des Hébreux fugitifs et affamés, conduits par Moïse dans le désert inhospitalier du Sinaï. Ce sera le pain eucharistique qu'il nous donne à profusion, auquel vous avez pu encore participer ce matin, celui qu'il consacrera, ou qu'il a consacré, à la Sainte Cène la veille de sa passion, et auquel il nous est donné que de communier chaque jour si nous le voulons. C'est son propre corps, sous forme de pain de la communion à la liturgie. Dans la guérison du paralytique, notre exemple, que ses amis font descendre par le toit de la demeure parce que l'entrée de la maison était obstruée par la foule qui prêche Jésus, nous voyons bien que le miracle qu'il accomplit de guérir un corps paralysé n'est que le prétexte pour montrer que c'est l'âme du paralysé par le péché qu'il vient, à laquelle il revient donner vie. On lui amène donc un paralytique et lui dit « Enfant, tes péchés sont remis ». Mais ce n'est pas ça que les porteurs du malade venaient demander à Jésus, mais bien son intervention miraculeuse pour le guérir. Et devant le scandale que l'audace de Jésus de pardonner les péchés comme s'il était Dieu, ce qu'il est véritablement, nous le savons, et ce qu'il veut prouver, alors, à ce moment-là, après avoir pardonné les péchés, il guérit effectivement aussi physiquement le paralytique. Mais le but n'est pas la guérison physique, ce n'est qu'un moyen pour manifester la guérison intérieure. Quel est le plus facile, dit-il au paralytique, de dire tes péchés sont remis ou dire dresse-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de remettre les péchés sur la terre, il dit alors au paralytique, à toi je dis, dresse-toi, prends ton grabat et va dans ton logis. Donc, l'objet de l'espérance n'est pas l'amélioration de notre condition humaine pour notre confort terrestre. Et pourtant, comme vous l'avez encore entendu ce matin, l'Église prie constamment et instamment pour la guérison d'un tel, pour bénir des constructions, des entreprises diverses, des troupeaux, pour la délivrance des prisonniers, pour la fin des schismes dans l'Église, et je ne sais pas quoi encore. On prie pour la paix, pour la prospérité des saintes églises de Dieu. Alors, au regard de ce que je viens de développer précédemment, est-ce que l'Église se trompe? Est-ce qu'elle s'occupe de notre sort ici-bas tout de même? Ou exclusivement? Le ton est donné dès le début de la liturgie. Le diacre dit « pour la paix d'en haut ». Pas pour la paix, mais pour la paix d'en haut. Eh bien oui, on désire la paix entre les nations et les hommes, c'est naturel, c'est normal. Mais ce serait le résultat légitimement attendu, car cette paix-là et serait le résultat légitimement attendu d'un amour idéal entre les hommes. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de guerre, ou d'opposition, ou de haine, ou de justice, ou d'injustice. Normalement, théoriquement, Dieu avait créé le monde pour que le monde soit une société bien réglée, dans laquelle chacun se préoccuperait du bien de l'autre sans chercher le sien propre. Mais c'est pas ainsi. Le péché est à l'œuvre. Nous sommes dans un monde déchu. Alors, il sait ce que nous demandons, c'est une autre paix qu'on demande à la liturgie, en demandant que se réalise et se manifeste le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire la paix telle que Dieu la donne, c'est-à-dire la réconciliation, non pas uniquement des hommes entre eux, mais des hommes avec Dieu. C'est ça la vraie paix. Et à la suite de ça, entre tous les hommes. C'est cette paix-là qui les anges avaient annoncée aux bergers de Bethléem, gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre, paix aux hommes qu'il aime. Oui, on prie bien pour la prospérité des saintes églises de Dieu, mais de quelle prospérité demande-t-on? Des sébiles bien remplies à la quête du dimanche, ou de nombreux donateurs, ou même une affluence des fidèles pour remplir l'Église et accomplir, soi-disant, notre mission d'évangélisation. Je ne crois pas que ce soit ça. La prospérité des saintes églises de Dieu, c'est la prospérité des églises en tant que corps du Christ, où rayonne la sainteté. Ça, c'est la prospérité, c'est-à-dire la présence transfigurante de l'Esprit Saint. Saint Séraphin de Sarov ne révélait-il pas à Motovilov que le but de la vie chrétienne était l'acquisition du Saint-Esprit? Voilà ce en quoi consiste la prospérité que l'on demande à Dieu. Il est vrai cependant que les offices liturgiques spécifiques sont régulièrement célébrés pour bénir des semailles, des maisons, des pains, de l'huile, des eaux, de la flotte, je veux dire, hein, des œufs, des gâteaux. Mais tout ceci, c'est pour que ces matières bénies soient effectivement sanctifiées par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'elles retrouvent leur fonction spirituelle qu'elles avaient à l'origine avant la déchéance par le péché. L'eau est bénie pour qu'elle redonne la vie intérieure aux hommes et qu'elle les purifie, corps, mais âme. Les repas sont bénis pour que les nourritures n'alimentent pas seulement le corps, mais aussi les âmes de ceux qui en mangent ou qui y communient. Donc, si l'on prie pour les choses de la terre, c'est parce que si on engage des entreprises humaines, on croit tout de même qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu, sinon on ne ferait rien. C'est notre espérance qui est en jeu. On fait quelque chose en espérant que Dieu accomplisse son œuvre à lui, mais pas la nôtre. On espère que Dieu, à travers nos entreprises, accomplisse sa volonté de salut à l'égard du monde auquel nous essayons, nous aussi, de collaborer, comme saint Paul nous le disait dans l'Épître tout à l'heure, par nos faibles œuvres, celles qui sont à notre portée et que nous accomplissons comme un don généreux de notre part au monde. Par ses prières, par ses bénédictions de toutes sortes, par notre pardon accordé à ceux qui nous offensent, les hommes s'en remettent à Dieu, ils lui confient avec espérance leurs soucis de santé, dans leurs entreprises, d'intelligence, en le cherchant par-dessus tout, lui, certains qu'ils sont, que Dieu pourvoit à leur accorder tout ce dont ils ont besoin comme il leur a promis, cherchez le royaume d'abord et tout cela vous sera ajouté. Ça, c'est l'espérance absolue, l'espérance chrétienne, l'espérance comme vertu, c'est-à-dire comme un don de l'Esprit Saint qui nous fait dépasser les soucis humains pour nous tourner vers les richesses du royaume éternel. Maintenant que je vous ai dit longuement ce que n'était pas l'espérance, attachons-nous à comprendre un peu ce qu'elle est réellement, tout de même. Il est naturel, comme j'essaie de vous le montrer, à l'homme d'exercer son espérance envers deux directions, l'une matérielle, humaine, si vous voulez, c'est la recherche du bien-être, du bonheur humain, mais on sait que ce bonheur est transitoire. Est tout de même limité. Il ne dure qu'un temps, que le temps d'une vie terrestre, et encore même pas tout le temps, bien sûr. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, dit saint Paul aux Corinthiens, nous sommes les plus malheureux des hommes. L'autre objet de l'espérance, c'est l'autre bonheur, celui qui est éternel, celui que seule la vie en Dieu est capable d'offrir parce qu'elle est communion avec Dieu éternel, qui veut se communiquer à l'homme, tout du moins si celui-là l'accepte. Cette espérance-là n'a pas de prix, et l'homme qui en est convaincu peut y consacrer toute sa fortune, c'est-à-dire toute son énergie et toute sa volonté. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme le trouve, il le cache, et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ-là. Et encore, dit toujours le Christ dans l'Évangile, le royaume des cieux est semblable à un commerçant qui achète de belles perles, il trouve une perle de grand prix, il s'en va, réalise tout ce qu'il avait et il l'achète. L'espérance, vous voyez, se porte sur la certitude de la foi que Dieu veut nous communiquer sa vie, sa gloire, son bonheur éternel, en passant par le Christ qui a partagé notre condition humaine. Comme je vous l'ai fait remarquer, nulle part dans l'Évangile, nous n'avons d'affirmation que Dieu aiderait à accomplir un bonheur terrestre, et nous savons même que c'est à travers la croix, au contraire, la souffrance et le renoncement total à soi-même, que nous participerons et pourrons acquérir le salut qui nous est proposé, à l'image de la kénose du Christ dont je vous entretiens souvent, c'est-à-dire à l'image de son renoncement à l'exercice de la gloire qu'il a en tant que Dieu, pour se faire égal et solidaire de tous les hommes, hormis le péché, bien sûr. Et ceci n'est pas seulement le sort des disciples, mais c'est pour tous, comme l'écrit saint Luc. Il appelle à lui la foule, c'est-à-dire nous tous, avec ses disciples, et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, porte sa croix et me suive. » Et oui, qui voudra sauver sa vie la perdra, dit-il toujours, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'évangile, la sauvera. Et oui, en quoi est-ce utile pour l'homme de gagner le monde entier et de laisser damner sa vie? Et que donnera un homme en échange de sa vie? Il me semble que l'objet de l'espérance chrétienne est suffisamment décrit pour l'instant. Il nous faut maintenant nous pencher sur ce en quoi consiste l'espérance. Est-ce seulement une aspiration, un désir d'exaucement hypothétique laissé à la discrétion et à l'arbitraire d'un Dieu tout-puissant? Pour comprendre l'espérance spécifiquement chrétienne, il faut nous remémorer un peu l'Ancien Testament. En quoi consistait l'espérance depuis Abraham? La Sainte Trinité lui apparaissant sous forme de trois anges sous le chêne de Mambré, elle lui promet à lui et à sa femme Sarah, contre toute logique humaine, une grande descendance à travers un fils que physiquement ils ne peuvent plus concevoir. Tout l'Ancien Testament consistera à attendre et à préparer, c'est ça l'espérance, attendre et préparer, l'accomplissement de cette promesse malgré de nombreuses trahisons et malgré des moments de doute ou des révoltes. Nous qui vivons bien longtemps après la réalisation de ces promesses, il nous est relativement facile d'en percevoir le cheminement. Mais pour Abraham et pour ses descendants, leur espérance avant la réalisation de cela était un acte de foi absolu en Dieu. Ils ne voyaient pas le résultat, ils ne constataient pas le résultat. Ils étaient sûrs pourtant que leur expérience, l'apparition à Mambré et d'autres révélations, avait été bien une réalité. Et ils s'attachaient au témoignage de ceux qui les avaient précédés, qui leur transmettaient leur expérience. Ils étaient certains que la fidélité à Dieu était aussi une réalité. Ainsi, devinaient-ils, bénéficiaient-ils par avance, par la foi, dit saint Paul, de ce qui devait advenir plus tard, la réalisation de ces promesses par la venue du Sauveur, Jésus, Fils de Dieu, et descendant d'Abraham. C'est ce que l'apôtre explique, espérant contre toute espérance. Abraham crut de manière à devenir le père d'une grande multitude de nations, selon ce qui avait été écrit, ainsi sera ta descendance, selon ta descendance. Et c'est sans faiblir dans sa foi qu'il considéra que son corps mort, il avait quelques 100 ans, mort aussi le sein de Sarah, en face de la promesse de Dieu, il n'hésita point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, rendant gloire à Dieu et pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il est capable aussi de le faire. Or, la vertu d'espérance dont fait montre Abraham est une manière de connaître a priori, donc avant coup, l'objet de l'espérance, comme la vision du nombre est déjà partiellement la connaissance de l'objet dont l'ombre est projetée. Notre salut est l'objet de notre espérance, et voir ce que l'on espère, ce n'est plus l'espérer, et ce qu'on voit, comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance, nous dit saint Paul quand il écrit aux Romains. Et alors, depuis que Jésus est venu sur terre pour se faire homme parmi les hommes, que devient notre espérance à nous qui ne sommes plus dans la situation d'Abraham? L'Épître aux Hébreux nous annonce une espérance meilleure que celle-ci, que celle de l'Ancien Testament, qui est inaugurée avec le Christ, par laquelle nous approchons de Dieu. En effet, dans l'Ancien Testament, les prophètes espéraient en un Messie qui devait venir plus tard. Mais maintenant, nous, pour nous, tout du moins, il est déjà venu. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, et nous en avons eu le témoignage. N'est-ce pas, d'ailleurs, ce que nous chantons à chaque liturgie après avoir communié? Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi. Donc pour nous, la nouveauté, c'est que ce que nous espérions, à savoir le fruit de la promesse faite à Abraham, nous, contrairement à lui, nous l'avons déjà reçu en la personne de Jésus. Cependant, pour nous aussi, l'espérance reste la même. Car si nous l'avons reçu effectivement déjà, il nous faut cependant encore le rechercher. Car depuis son ascension, comme vous savez, il s'est dérobé à notre regard. De nouveau, comme Abraham et comme David, il nous faut nous attacher à la foi et espérer le retrouver, l'espérer activement, dans l'au-delà, dans l'autre monde, au-delà de la mort, dans le royaume des cieux et aujourd'hui déjà dans notre cœur où il est présent. Oui, dit encore l'apôtre, la légère tribulation d'un instant nous prépare, bien au-delà de toute mesure, une masse éternelle de gloire. Aussi bien, ne regardons-nous pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternelles. Ainsi, un aspect non négligeable de la vie chrétienne est de cultiver l'espérance du royaume de Dieu, je le répète, laquelle est la participation à sa vie elle-même et l'acquisition du Saint-Esprit en nous vidant de nous-mêmes, en nous dépassant nous-mêmes, c'est-à-dire en espérant, c'est-à-dire en goûtant par avance, mais par expérience, autant que faire se peut, et humblement, mais réellement, la joie de la connaissance du Christ, afin de développer en nous la soif de le retrouver, de le sentir, si je puis dire, et de le laisser emplir nos vies par sa vie à lui. La vie chrétienne, c'est consiste à passer, à laisser passer sa vie à lui dans la nôtre, afin que nous vivions ce qu'il vit, parce que lui avait déjà vécu avant nous ce que nous vivons nous-mêmes. Et ceci ne peut que nous remplir de joie à la mesure du don généreux de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre généreuse et joyeuse espérance effective. Ne crains pas, petit troupeau, dit-il, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Jésus dit encore, amen, je vous dis, il n'est personne qui laisse maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maison, et frère, et sœur, et mère, et enfant, et champ, avec, certes, des persécutions, et dans l'éternité qui vient, une vie éternelle. Comme vous le voyez, l'espérance suppose que l'on ait la foi en la promesse, celle dont j'ai parlé précédemment, celle du royaume rendu accessible par notre union en Christ, et elle implique la patience, patience dans l'attente, et patience hors de doute lors des épreuves qui semblent parfois, voire souvent, aller à l'encontre de la promesse. Et pourtant, Dieu accomplit toutes ses promesses. La connaissance de l'Ancien Testament nous en apporte la preuve, la vie des saints en témoigne aussi, les miracles qui apparaissent tous les jours dans l'Église en sont encore les signes et la manifestation, même s'ils n'en sont pas le but immédiat. Le Seigneur nous annonce des oppositions, des persécutions, des déboires, mais cela n'empêchera pas le salut que Dieu nous accorde. Ils vous livreront à l'affliction, dit-il. Ils vous tueront et vous serez haïs par toutes les nations en cause de mon nom. Alors, beaucoup chuteront, les uns les autres se livreront, ils se haïront les uns les autres, beaucoup de faux prophètes se dresseront, ils en égareront beaucoup, et l'iniquité se multipliant, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais, qui durera jusqu'à la fin sera sauvé. Et maintenant que nous avons dit cela, faut-il croire pour autant que l'espérance soit facile? Certainement pas, puisqu'elle consiste précisément à se dépasser, à se vider soi-même pour adhérer par avance à une condition de vue future et prophétique qui consiste véritablement à vivre par avance selon notre condition à venir, puisqu'il faut espérer ce qu'on ne voit pas et ce dont le monde ne nous montre pas tout de même la réalisation et même semblerait au contraire nous apporter la preuve de l'illusion. Je m'explique. Nous croyons, n'est-ce pas, en Jésus comme Dieu et homme. Nous croyons en sa présence, certes, mais avouez que souvent nous avons un peu l'impression qu'il est tout de même bien silencieux devant la prolifération de l'injustice, des malheurs, des cataclysmes, des maladies, des morts injustes ou de nos échecs personnels, voire même de nos péchés. Qui n'a jamais été confronté au silence de Dieu? Et on n'est pas les premiers. Les disciples même, si j'en crois ceux que l'on appelle d'Emmaüs, étaient bien dépités eux aussi après l'échec apparent et provisoire de la mort de leur maître. Nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour une condamnation à mort et l'ont mis en croix. Et nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà 3 jours depuis que ces choses sont arrivées. Et oui, c'est là que justement qu'il faut espérer contre toute espérance, pour reprendre la formule de saint Paul. Mais justement, l'espérance, elle, ne déçoit pas, a-t-on lu aussi dans la même épître aux Romains. Car celui qui se confie à Dieu n'éprouvera jamais de confusion. Nous le chantons, avec foi dans le psaume 90. Celui qui habite sous le secours du Très-Haut reposera à l'abri du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur, tu es mon soutien et mon refuge, il est mon Dieu, et je mets en lui mon espérance. Et un autre verset plus loin, toi Seigneur, tu es mon espérance, tu as fait du Très-Haut ton refuge, le mal ne pourra t'atteindre, ni le fléau approcher de ta tente. Non seulement le silence de Dieu nous pèse, mais en plus, il faut bien avouer que tout de même, le Christ bouleverse toutes nos conceptions les plus légitimes. Notre logique est rudement confrontée à la sienne et souvent battue en brèche. Sa conception du salut, ses méthodes pour y parvenir, sa manière de sauver le monde, le contenu du salut lui-même, nous étonne et souvent nous scandalise. Il nous ordonne par exemple d'aimer nos ennemis, tu parles. Il nous attaquait de remettre l'épée au fourreau. Il renverse la hiérarchie sacerdotale légitime. Là, j'y suis sensible. Il va de lui-même au-devant de son arrestation et de sa mort, et il entraîne même avec lui ses disciples. Acclamé par la foule des fils d'Israël, il entre triomphalement à Jérusalem, mais ne prend pas le pouvoir que tous lui reconnaissent pourtant. Et c'était la dernière chance de restaurer la royauté d'Israël. Interrogé au tribunal, il ne répond pas. Condamné, il ne se défend pas. C'est véritablement tout le contraire de nos réflexes et de nos habitudes les plus légitimes. Et il ne promet pas un sort meilleur à ceux qui le suivront. La plupart des apôtres mourront martyrs, et beaucoup de ses disciples à venir aussi, et ce, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on célèbre aujourd'hui les innombrables néo-martyrs russes. Avouez tout de même qu'il faut vraiment l'aimer pour le suivre. Il faut vraiment exercer une espérance à toute épreuve pour lui faire confiance. Nous connaissons les béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui sont persécutés, ceux qui sont insultés. Enfin vraiment, c'est le monde à l'envers. Ça va à l'encontre de la raison et cela nous est souvent insupportable. Mais ceci n'a-t-il pas été aussi la tentation de saint Jean-Baptiste, le précurseur, le propre petit cousin de Jésus, son aîné de 6 mois, de qui dès le sein de sa mère, avait pourtant reconnu l'agneau de Dieu lorsque Marie avait embrassé sa cousine Élisabeth. Plus tard, le même Jean l'avait désigné à ses propres disciples comme « voici l'agneau de Dieu » dont il n'était pas digne de délier la courroie de la chaussure. Et il avait dit de lui « celui qui vient derrière moi est plus fort que moi et il vous baptisera, lui, dans l'Esprit Saint et le feu. » Et pourtant, devant les méthodes étonnantes de Jésus, Jean, du fond de sa prison dont il n'avait guère l'espoir de sortir vivant, lui envoie des messagers pour lui demander « Toi, tu es celui qui vient ou il faut attendre l'autre ?» Saint Paul aussi, tourmenté par un mystérieux ange qui lui donne des soufflets, prie Dieu que cet ange s'écarte de Dieu. Et alors, la seule réponse de son sauveur, auquel il voue pourtant toutes les minutes de sa vie, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance se fait mieux sentir dans la faiblesse. » Il a fallu qu'il se contente de cela. Avec une telle réponse, il a bien fallu évidemment, que Paul exerce une espérance sans faille, une espérance contre toute espérance. Ceux qui sont les plus croyants ne connaissent-ils pas, une autre tentation? Je crois certain, peuvent-ils se dire, si c'était qu'une histoire, si c'était qu'un rêve, si c'était un pari risqué. Mais non, nous rêvons d'une église prospère, de conversion en masse, devant la splendeur de la liturgie, devant la perfection de la doctrine chrétienne, devant la charité de nombreux fidèles, devant les rayonnements de Saint Séraphin de Sarov, de Saint Jean de Kronstadt ou de Saint Luc de Simferopol. Et que voyons-nous? Nous voyons une église persécutée,